Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-glace. Avant de vous laisser plonger dans votre nouvel épisode, je voulais vous parler de « Y a qu'à m'expliquer », une toute nouvelle série audio du temps dédiée aux intelligences artificielles. Deux fois par mois, dans « Y a qu'à m'expliquer », Grégoire Barbet tentera de démystifier les enjeux posés par ces IA et reviendra sur les principales actualités qui les concernent. Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir « Sous la coupole », notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, web et print, sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
J'étais une victime parfaite parce que dès petite, je répondais à tout le monde. Et quand on violente quelqu'un puis qu'il répond, on a envie de continuer à le violenter. Donc je me faisais bully par tout le monde. Je me suis fait taper super jeune et pendant super longtemps. Au final, je me disais que c'était presque normal de se faire taper. Parce que même quand je changeais d'école, je me faisais taper aussi. Donc je me disais, mais c'est pas possible. Comment ils savent? Comment ils se sont donné le mot entre deux écoles différentes qui se connaissent pas? Donc je me disais, ben c'est juste moi, c'est normal. Ce qui est horrible, hein. C'est assez intense de se dire, bon bah c'est normal de se faire tabasser. Mais c'était un peu mon quotidien. Je me faisais racketter, je me faisais tabasser. Puis voilà, hein. Puis la vie continuait.
Bienvenue dans la saison 6 de Brise-glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Ava, plus connue sous son nom de scène, Moon, est un brise-glace à elle toute seule. C'est la première Suissesse à participer à l'émission déjà culte Drag Race France, franchise du carton américain RuPaul's Drag Race. C'est aussi la première femme trans du show. À notre micro, elle nous parle de son enfance dans une épicerie genevoise, de harcèlement scolaire, des paillettes, du show business et de la joie d'être enfin bien dans ses baskets.
Alors, hello, je m'appelle Ava Mate, aka Moon. J'ai 32 ans, je suis genevoise et aussi rome. Je suis drague, peintresse, un peu écrivaine et voilà.
Dans quel genre de famille vous avez grandi ?
Dans une famille heureuse, je dirais. J'ai une sœur, on a 17 mois de différence, donc on est vraiment super proches l'un de l'autre. Et quand j'étais toute petite, j'ai grandi dans une épicerie à Champelle, parce que mes parents, ils étaient épiciers. Et je sais pas pourquoi, je me rappelle chaque fois, quand je parle de ma sœur, je me rappelle chaque fois qu'on était dans une chambre ensemble, dans une épicerie. Parce qu'on était vraiment dans le fond de l'épicerie. Il y avait juste un petit rideau, et puis il y avait notre appartement derrière. C'était trop pratique. Quand t'as faim, tu manges quoi tu veux. C'était trop bien. Puis c'était une épicerie très familiale. C'est super joyeux parce qu'il y avait tout le temps du passage et tout le temps des gens qui rigolaient et qui tapaient la discute à mes parents.
Et vous avez mentionné le fait que vous étiez rome.
Alors ça vient du côté de ma mère. Bon, c'est une famille qui, on est sédentarisés depuis 3 générations. Donc tout ce que je connais de cette famille-là, c'est plutôt le côté forain parce qu'ils sont roms forains beaucoup. Toutes les fêtes foraines, j'avais tout gratuit. Mais j'ai pas gardé beaucoup de contacts maintenant.
En termes de culture ou de valeur, est-ce que c'est quelque chose qui est infusé un peu dans cette éducation, cette origine rome ou pas vraiment ?
Ben, je dirais que mon éducation, elle a pas trop été infusée par ça. C'est plutôt mes parents vraiment qui... Ils avaient eux-mêmes leurs propres valeurs, qui ont pas pris de leur famille, j'ai l'impression. Qu'ils ont construit tout ensemble, les deux. Après, je dirais que tout ce qui vient dans le drag surtout. Par exemple, mon drag est beaucoup inspiré de toute ma famille rome, de mes ancêtres, de toute cette culture qui m'a obsédé pendant tellement longtemps, ça je l'ai beaucoup utilisé.
C'était quoi ces valeurs que eux ont construites eux-mêmes autour de votre famille ?
Déjà le respect et l'égalité homme-femme, ça c'est vraiment un truc éducationnel, de se rendre compte que ton papa et ta maman ils sont égaux. Ça moi je l'ai vraiment eu, je l'ai ressenti très jeune. On avait la même éducation, moi et ma sœur. Ça je trouve que c'est assez fou, ça, je suis assez contente, je suis assez fière de ça. Par exemple, au niveau de comment on voulait s'habiller, eh ben on s'habillait comme on voulait. Parce qu'ils se sont vite rendus compte que mon physique, c'était peut-être des fois un peu un problème pour moi. Et puis que j'avais besoin de faire ce que je voulais. Parce que j'ai une tête très dure. Quand j'étais petite, j'étais très campée sur mes positions. Et que si j'avais pas envie de faire quelque chose, je le ferais pas. Quand ils ont essayé de me mettre trop longtemps des petites chemises et des petites jeans, ça a pas marché. C'était moi qui voulais acheter mes leggings et tout ça, et donc il fallait que je me mette comme je voulais. On le ressentait aussi au niveau du sport, parce que oui, j'ai fait du foot. Et oui, j'ai détesté ça, et j'ai pas eu honte de le dire à mes parents. J'étais même trop fière, en fait, et mon père était trop fier aussi que je déteste. C'était assez cool, parce que du coup, je me sentais vraiment libre de mes choix. Et puis, j'ai tellement testé de choses. Je sais pas, j'étais un peu une pile, quoi. Je dansais beaucoup, je chantais beaucoup. J'avais l'impression que j'avais un gabarit énorme de tout ce que je pouvais faire dans la vie. Donc ça te fout des ailes, en fait. Quand t'es jeune et puis que tu sais que tu peux faire plein de choses, c'est trop ouf.
Physiquement, vous ressembliez à quoi ?
J'étais grave beau. J'avais des trop beaux cheveux, genre une tignasse de ouf, brun. J'avais les traits super féminins et tout le monde me le disait tout le temps. J'avais les traits super doux, des petits yeux, un peu de renard. Je voyais beaucoup en fait ma famille rome quand je me regardais dans le miroir. J'ai un truc, je trouve, très des Balkans quand j'étais petite.
Et en termes de corpulence ?
Il y a eu un temps, bon, j'ai l'impression un peu comme tous les enfants, t'es un peu une petite boule. Puis après, j'ai toujours été très fine. J'ai jamais eu beaucoup de muscles et tout. C'est maintenant, en fait, depuis que je me suis outée de ça et tout, que je reprends du poids, que je crois que c'est les hormones aussi. Ça me fait tellement bouffer. J'ai plus de graisse, j'ai plus de choses sur moi et je me sens tellement mieux. Mais ouais, je sais pas. J'ai un petit squelette des fois, ouais. Puis en plus, j'avais une manie de toujours m'habiller de façon monochrome. Mais tout le temps. Il fallait que mon pull soit la même couleur que mes chaussettes, que mes baskets, que mon leggings, que mon t-shirt et que mon slip. Mais vraiment, ma mère, ça la rendait folle. Puis après, ça la faisait rire. Mais j'avais une belle garde-robe.
Mais ça venait d'où, cette lubie ? Parce que c'est quand même un sens assez aigu de la mode, déjà.
Mais ça, c'est marrant parce que je crois que ça vient de mes grands-mères. Parce que depuis toute petite, je vois mes grands-mères tout le temps fringuées, trop bien. Tout le temps avec des voiles ou des châles, des foulards. Je me rappelle, ma grand-mère paternelle, elle mettait tout le temps des foulards imprimés léopard. Et je me disais, mais c'est un look de dingue. Et elle avait toujours des cheveux genre un peu une grand-mère italienne. Toujours apprêtée et un peu qui rouspète. Et moi, je trouve que c'était le genre de femme que j'aimais trop. Bah, ma mamie maternelle aussi, hein, elle était toujours un peu apprêtée, puis elle faisait toujours un peu la gueule, donc je sais pas. Je trouve que ça, c'était exactement ce que j'aimais. C'était le genre de femme que j'avais envie d'être. Belle et fâchée. Mais toujours de bonne humeur. Mais il faut pas faire chier, quoi.
Et vous avez dit que vous aviez des sortes de problèmes liés à votre corps petite.
Mm-hmm.
Comment est-ce que ça se traduisait, cette tension ?
C'est juste, en fait, c'était de l'angoisse liée à mon corps et moi, j'arrivais pas à le communiquer. Et donc, j'étais de mauvaise humeur. J'étais chiante. Parce que quand t'es trop jeune, c'est horrible de se dire que tu peux pas trouver ta place. Et puis les parents, c'est trop bizarre pour eux de se dire qu'un enfant de 4 ans, il trouve pas sa place. Parce qu'à 4 ans, de toute façon, qu'est-ce que tu comprends vraiment à la vie ? Donc, réussir à mettre les mots dessus, moi, ça, je les avais pas. Ni à 15 ans. Techniquement, et ni à 20 ans. J'ai dû attendre jusqu'à 30 ans pour essayer de vraiment comprendre qui j'étais. Et je regrette pas. Mais c'est vrai que maintenant, je me rends compte que l'éducation, elle a un peu changé. Quand en 2024, on se rend compte plutôt que peut-être un enfant passe par une dysphorie de genre ou quelque chose comme ça.
Dysphorie de genre, comment est-ce qu'on peut l'expliquer simplement ?
C'est quand ton genre noté sur ta carte d'identité n'est pas adéquat avec ce que tu ressens à l'intérieur.
Et ça, est-ce qu'il y avait des gens avec lesquels vous vous sentiez assez bien pour pouvoir en parler ?
Le truc, c'est que c'est pas le problème de pas se sentir bien, parce que je me sentais bien avec quasi tout le monde. J'étais vachement facile d'ouverture. On n'a jamais eu de problème à discuter de tout avec mes parents. C'est juste que je savais pas ce qui m'arrivait, donc j'arrivais pas à en parler. Et puis mes parents, je pense qu'ils se sont pas posés non plus les questions qu'il fallait. Puis il y a personne autour de nous qui avait les mêmes choses qui leur arrivaient, en fait, tout bêtement. Donc moi, j'en veux à personne.
À l'école, comment est-ce que ça se traduisait, ces tensions ?
Je crois qu'en fait, j'étais une victime parfaite, parce que dès petite, je répondais à tout le monde. Et quand on violente quelqu'un puis qu'il répond, on a envie de continuer à le violenter. Donc je me faisais bully par tout le monde. Je me suis fait taper super jeune et pendant super longtemps. Et au final, je me disais que c'était presque normal de se faire taper. Parce que même quand je changeais d'école, je me faisais taper aussi. Donc je me disais, mais c'est pas possible. Comment ils savent ? Comment ils se sont donné le mot entre deux écoles différentes qui se connaissent pas ? Donc je me disais, c'est juste moi, c'est normal. Ce qui est horrible, hein. c'est assez intense de se dire, bon, bah, c'est normal de se faire tabasser. Mais c'était un peu mon quotidien. Je me faisais racketter, je me faisais tabasser. Puis voilà, hein. Puis la vie continuait.
Ceux qui vous agressaient, c'était quoi leurs propos, leurs motivations, leurs agressions verbales?
Bah, parce que j'étais trop efféminée, quoi. C'est tout le temps les mêmes mots, c'est petit PD, ta fiole, tout ça. Puis en plus, ce qui les rendait fous, c'est que j'avais toujours des petites copines. J'en avais plusieurs. Et souvent, les petites copines, c'était des filles que les personnes qui me tapaient aimaient bien. Et donc, en plus d'être une personne horrible à regarder selon eux, eh ben je leur volais leur copine. Donc, donc ouais, ils me tapaient. Ça m'a pas empêché de continuer à sortir avec plein de filles, quoi.
À l'adolescence, c'est aussi un moment où on s'interroge pas mal sur son rapport à son propre corps.
Mm-hmm.
Comment est-ce que ça s'est passé pour vous ?
En fait, moi, j'en jouais beaucoup de mon physique parce que j'essayais un peu tous les looks. Je me rappelle que j'essayais vraiment de m'attacher un peu à toutes ces tribus urbaines.
Genre gothique.
Ouais, gothique, skater, punk. Fashionista, j'essayais tout. Des fois, j'aurais pas dû, mais je prenais ce que j'aimais bien. Après, je me suis un peu construit moi-même. Et en fait, je me faisais des potes aussi à chaque fois. Et après, en plus des embrouilles, et puis je lâchais des potes, les potes me lâchaient. Et il y a eu un moment, en fait, où je me suis retrouvée un peu toute seule. Et du coup, je me suis réfugiée sur le web. Par exemple, j'étais emo.
Donc, après emo, ça, c'est un peu métal.
Et c'est un style vestimentaire plutôt dark, donc plutôt dans les tons noirs. Hein. On mettait tout le temps des skinny jeans noirs, des t-shirts noirs avec des coupes de métal dessus, genre des cheveux de toutes les couleurs, beaucoup de colliers, beaucoup de bracelets.
Pour le coup, le maquillage dans le look emo est assez non-genré aussi.
Bah, c'est là que j'ai commencé un peu le maquillage.
À mettre du kohl, à mettre du crayon noir.
Ouais, je mettais beaucoup de crayon noir, j'aimais trop. Mais ouais, j'étais un peu perdu, je crois, mais je m'étais un peu réfugié sur Internet parce que du coup, je me suis rendu compte que faire des photos de moi avec ce style-là, ça marchait bien. Je me rappelle, j'avais mon prénom, mon blase, c'était Triband Joyce. Quelle horrible blase. Et il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui me suivaient. J'étais Skyblock du mois, genre plusieurs fois, donc ça allait sur les millions de vues. Et je recevais énormément de commentaires. Et donc, même si des fois, j'avais pas vachement d'amis, je me disais, c'est pas grave, j'ai Internet. J'y passais du temps de ouf, je faisais trop de vidéos, je faisais trop de... Bon, après, j'ai construit toute une communauté, j'avais beaucoup de personnes qui étaient émo aussi, avec qui j'ai traîné. C'était une de mes meilleures périodes, parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait beaucoup qui étaient homo, lesbiens... C'est là que vraiment, j'ai commencé à me poser des questions existentielles plus précises sur mon genre, parce que je me suis longtemps dit bisexuel, parce que j'avais pas de préférence vraiment. Et c'est que plus tard, quoi, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais une femme dans ce corps. Et au début, ça a été trop dur de me dire que j'étais une femme trans, parce que... Les premières fois que je voyais en fait des femmes trans, c'était juste dans le porno, mais vraiment que dans le porno. Quand j'étais plus jeune, je me disais mais j'ai pas envie de faire du porno, est-ce qu'il y a des autres carrières ? Enfin, c'est hyper trash de dire ça, parce que bon, on n'a rien contre le porno, c'est sûr, mais la représentation, eh ben, il en manquait terriblement. Moi, j'avais que celle-ci et c'était pas celle que je voulais être, quoi. Et donc, au début, je me suis dit, bon, bah, je suis plutôt... une personne peut-être à genre, qui n'a pas de genre. Après, je me suis dit, genre, bah non, je pense que je suis plutôt non-binaire. Après, je me suis dit que j'étais fluide, parce que je me suis dit, peut-être que c'est plus simple de se dire, des fois, j'ai envie d'être plutôt un mec, des fois, plutôt une femme. Je suis passé par plusieurs trucs. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon corps qu'il fallait que je change aussi. Et je suis arrivé assez rapidement, quand je me suis outé en tant que personne trans, sur le fait qu'il fallait que je prenne des hormones. Mais j'avais trop peur que je puisse plus retourner en arrière, que je pourrais sûrement plus avoir d'enfants très rapidement si je prends des hormones, que je vais avoir probablement une poitrine qui pousse et qu'après, si tout d'un coup, ça me plaît pas, qu'est-ce que je fais ? Et en fait, je me suis dit, je suis tellement malheureuse. Vraiment, j'avais des pensées suicidaires. Je sortais H24, je me bourrais la gueule. C'est une vie qui avait pas de but. Et donc, du coup, je me disais... Là, je suis à un moment de ma vie où il faut que je change. Donc cette prise d'hormones, c'est peut-être un risque, mais c'est probablement ce qui va changer tout et ce qui va m'aider moi. Et je me suis rendu compte en parlant après à mon endocrino pour savoir vraiment techniquement ce qui allait se passer, et puis en parlant à une psy qui m'a fait le papier comme quoi j'avais une dysphorie de genre, du moment que j'ai pris les hormones, tout allait mieux. Mais vraiment, tout allait mieux. C'était abusé. C'était comme si, en fait, j'avais la lumière éteinte depuis toute ma vie. Et puis que là, en fait, je voyais les couleurs, quoi.
Quand vous annoncez ça à vos parents, ce coming out trans, comment est-ce qu'eux réagissent ?
Quand je leur ai dit les termes « je suis une femme trans », j'avais 29 ans. Au début, ça a été l'incompréhension et la peur. Je pense la peur de se dire « ta vie a l'air d'être déjà assez dure comme ça ». Est-ce que t'es sûr que tu veux rajouter cette couche? Ça va être potentiellement du mal-être en plus. Les gens qui te regardent différemment, les opportunités de travail. Enfin, voilà, c'est tout ça qui se passe, dans, je pense, dans la tête d'un parent. Ce qui est pas méchant, mais ce qui est un peu dur. Parce que l'enfant, je pense que quand il lui dit ça, il a juste envie que le parent lui dise « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis là pour toi. » Pas « j'accepte ou pas ». Je ne laisse le choix à personne de me tolérer. Je suis hyper heureuse avec qui je suis. Je vais le revendiquer jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a personne qui a le droit de me dire qu'il m'accepte ou pas. Tu ne me possèdes pas, quoi. Et même si mes parents m'ont fait, ils n'ont pas ce pouvoir sur moi. Et au début, ça a été un peu compliqué. Ils n'avaient pas vraiment envie de comprendre. Ils étaient un peu tristes aussi, peut-être un peu en deuil, de dire au revoir à leur fils, en quelque sorte, qu'ils ont eu pendant 30 ans, et dire bonjour à leur nouvelle fille. Mais je comprends. Et moi, je suis d'accord de laisser le temps qu'il faut aux parents. C'est juste que maintenant, moi, c'est mon temps, et que je pense à moi, et que je pense que j'ai commencé par le meilleur des choix en faisant ça.
Sur la question du suivi psychologique, est-ce que vous avez quand même été un peu accompagné? Parce que c'est des questions littéralement existentielles, quoi.
Moi, j'avais pas du tout envie de psy. Parce que du moment que je me suis dit « je dois prendre des hormones », j'avais l'impression que je savais ce qui allait pas. Et que je me suis dit « genre je vais prendre les hormones, ça ira vachement mieux ». Et j'ai toujours été une personne... Bon, déjà, je suis vierge, donc je paranoïe sur tout.
Donc on parle du signe astrologique.
Ouais. Je m'auto-diagnostique beaucoup. J'ai vécu ma vie en allant sur Doctissimo, en pensant que j'avais tous les cancers du monde. Et donc, je me rappelle, j'étais allée voir un psy quand j'étais petite parce que j'arrivais pas à dormir. Et j'ai l'impression que je me suis juste dit « Non, maintenant, c'est bon, j'ai plus peur du noir, je vais dormir. » Et je savais qu'est-ce que moi, je devais faire de mon corps et de ma tête. Donc, j'ai pas ressenti le besoin d'en parler à quelqu'un que je connaissais pas. J'ai ressenti le besoin d'en parler aux personnes que je connaissais. C'est-à-dire ma famille, ma mère qui m'a beaucoup écouté, mon père aussi, ma sœur, et puis mes meilleurs amis, qui sont aussi des personnes trans. Et... j'ai jamais autant bien compris ma vie qu'en parlant à des personnes qui vivent la même chose. C'est primordial de s'entourer de personnes qui vivent les mêmes choses que toi. Pour essayer de... Rien que en fait se sentir moins malheureuse ou bien se sentir un peu malheureuse à deux, ça t'aide à te sentir mieux, quoi. Tu partages un peu ton fardeau, t'as l'impression... Puis genre quand t'es les deux dans la rue et quelqu'un te regarde mal, tu te dis genre bon, il nous regarde mal les deux, on est ensemble, on est des sœurs. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est plus facile. Et j'avais pas envie de psy, je l'ai pas fait. Ce que je conseille pas, hein, parce que je pense qu'il faut pas être transgenre pour voir un psy. Je pense que tout le monde devrait voir un psy. Ça, c'était une de mes fautes. Mais maintenant, je me sens tellement plus sereine et j'ai tellement plus toutes ces questions dans ma tête que pour l'instant, je vais bien, quoi.
Quand on doit choisir un prénom, comment est-ce que vous avez choisi cette nouvelle identité ?
Alors moi, c'est marrant parce que j'ai changé deux fois de prénom. Au début, je me suis appelée Anna pendant 6 mois parce que mes deux grands-mères, ça faisait partie de leur prénom. Et je trouvais ça très important parce que j'ai toujours été inspirée par elles. J'avais envie que ce soit un truc qui est un peu de famille et donc du coup, j'avais envie de m'appeler Anna. Et je me rappelle que j'étais partie travailler à Gstaad en tant que serveuse et on était 10 serveuses et sur les 10, il y avait 5 Anna. Et je me suis dit, mais merde, putain, je suis une personne trans et je choisis un prénom qui est autant populaire, ça me saoule. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je le fasse bien et il faut que je le fasse mieux. Il faut que je fasse un truc qui est moi. Je suis passé par plein de prénoms dans ma tête et après, ça s'est arrêté en fait par le deuxième prénom de ma sœur, donc Ava. Elle s'appelle Adeline Lila Ava. pour moi, ça me semblait aussi important de me dire que c'était un prénom que mes parents avaient choisi aussi pour leur fille. J'en ai parlé à ma sœur directement, je lui ai demandé si ça lui convenait que je prenne son deuxième prénom, parce qu'elle ne l'utilise pas du tout. Si on dit Ava dans la rue, elle ne se retourne pas. Et en fait, c'était si beau de pouvoir partager ça avec ma sœur. Elle était très contente, elle m'a dit oui. Puis voilà. Puis maintenant, je suis tellement contente de m'appeler Ava, je trouve que ça me va très bien. Et puis, puis c'est moi.
Est-ce que vous avez dû faire un travail de pédagogie aussi avec vos proches pour leur expliquer ce que c'était qu'être une femme trans ?
Ouais, quand t'es une personne trans, tu fais à peu près 50% du temps du travail de pédagogie avec ton entourage, ce qui peut être extrêmement fatigant. Des fois, tu finis un peu à te foutre un peu dans un tunnel comme ça et bah, t'as plus envie de répondre. Par exemple, quand je rencontre des nouvelles personnes et puis qu'il y a mes parents, puis que d'un coup, ils sortent mon ancien prénom alors que la personne m'a jamais connu sous l'autre prénom, ben là, c'est très violent pour moi, puis c'est très gênant. Mais en fait, d'expliquer, même si on n'en a pas très envie, je pense que c'est aussi peut-être une responsabilité qu'on a. Parce que je me rends compte que moi, le faire par exemple à la télé ou sous ce genre de podcast, eh ben, après, il y a des gens qui viennent m'en parler sur les réseaux sociaux. Et puis qui me disent ma merci parce que j'ai fait écouter le podcast à ma mère et puis ma mère a compris quelque chose. Enfin, tu vois, c'est fou. Et donc, discuter, ça reste la meilleure des options. Mais j'ai l'impression qu'en fait, les personnes trans, on est les seules personnes qui connaissent la loi pour les changements. On est obligé de se battre H24 pour ça.
La loi en Suisse, c'est quoi ?
Alors, ça dépend de qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire. Moi, tout s'est fait très rapidement parce que j'étais une personne déjà majeure. À 30 ans, j'ai pu changer mon prénom en à peu près 2 mois.
Ça a quel coût ?
C'était à peu près 300 francs pour faire le changement de prénom et de faire mon nouveau passeport. Après, mes cachets d'hormones, par exemple, qui sont remboursés, hein, mais je crois que c'est genre 20 francs et ça part en 2 semaines. Donc ça fait, ouais, ça fait 40 francs par mois. C'est pas énorme, mais c'est déjà un budget. Et puis, il y a toutes les séances de laser que moi, j'ai dû payer à mes frères.
Laser, donc, pour la pilosité ?
Ouais. Quand j'ai commencé à prendre les hormones, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais plus me raser, quoi. Il fallait que j'enlève tout. C'était trop dur. C'était hyper dysphorique de sortir pendant la journée et puis d'avoir une barbe. C'était horrible. Du coup, moi, j'ai dépensé plus de 7000 francs. Ça va très, très vite. Quelque chose aussi que je vais probablement changer, c'est faire une petite intervention des cordes vocales. Parce que moi, ma voix, là, si on m'entend au téléphone, on me dit « Bonjour, monsieur », souvent, hein. Les voix, on dit encore en 2024 que c'est une voix masculine et une voix féminine, on ne dit pas des voix graves et des voix aiguës. Et je me dis, ça, si on vivait dans un monde où il y aurait beaucoup plus de personnes trans avec des voix qui sont pas assimilées directement à l'homme et à la femme, ben peut-être que je ne le ferais même pas, ce genre d'intervention. Mais dans le monde actuel dans lequel on vit, je me fais mégenrer absolument tout le temps que j'ouvre la bouche et donc ça me saoule.
Une des interrogations qu'on entend aussi souvent de gens qui, par ailleurs, ont aucune malveillance, mais s'interrogent sur la transidentité, c'est de se dire, ben, finalement, pourquoi est-ce que tous ces gens qui se revendiquent queer, pourquoi est-ce que c'est si important pour eux de se réassigner ? Est-ce qu'on pourrait pas juste dire, ben, on est comme on est, et de pas retourner dans une sorte de fonction binaire ? Est-ce que c'est une chose à laquelle vous avez été exposé ?
Oui. Et la plupart du temps, en fait, c'est par des personnes hétéros qui me disent « Mais pourquoi tu te fous dans une boîte ?» blablabla, blablabla. En fait, déjà, de un, laisse-moi tranquille. Je me mets dans les boîtes que je veux. Et en fait, c'est juste tout bêtement, quand tu te fous dans une boîte et que tu choisis de te mettre dans cette boîte-là, c'est souvent pour te retrouver dans cette boîte avec des personnes comme toi. Et quand tu es entouré de personnes qui s'assignent et qui se disent être comme toi, et ben ça t'aide parce que t'as des conversations qui sont fantastiques, tu réfléchis sur autre chose que juste le fait d'être vivant en fait dans cette société qui t'apprécie pas. Je le vois pas du tout comme une exclusion dans le reste de la société, de dire je suis une personne transfemme. J'aime bien aussi dire que je suis une personne queer, puis je dirais que le genre en fait est tellement obscur, ça m'appartient de dire ce que je veux, puis au pire on s'en fout.
Donc, comment est-ce que l'art du drag est arrivé dans votre vie ?
Moi, j'ai fait des études à la Haute École d'Art de Genève, donc la HED, et je faisais beaucoup de dessins, et j'écrivais beaucoup de textes sur la création de personnages. et d'alter ego. Et je me suis dit, en fait, au bout d'un moment, quelle est la meilleure façon de créer un alter ego que de le personnifier par son corps. Et donc, je me suis mis au drag. Au début, c'était un peu plus innocent. Je mettais juste des robes, un rouge à lèvres, du vernis à ongles, une perruque immonde. Puis je me disais genre, voilà, je suis une fille. C'était un peu ridicule. Après, j'ai vraiment essayé de construire ce personnage qui était mes drags, quoi.
Et comment est-ce que ça s'est professionnalisé ?
Alors, il y avait cette annonce pour participer à Drag Race France. Donc, Drag Race, c'est une compétition où, du coup, il y a une dizaine de drags qui se battent pour une couronne.
C'est une sorte de Starac de drag ou...
Ouais, c'est une sorte de Starac. C'est une télé-réalité de drag. Ça existe depuis un petit moment aux États-Unis. Et puis, on s'est rendu compte que les franchises, elles ont un peu éclos à travers le monde. Et ils ont annoncé qu'ils allaient le faire en France. Donc, j'ai envoyé ma candidature. Mais à cette période, j'avais pas encore fait mon outing. J'avais pile 29 ans. Et je me rappelle que j'étais un peu déprimée. Et je pense que pendant la candidature, ils se sont rendus compte de mon mal-être et que c'était peut-être pas le bon moment pour moi. Du coup, j'ai pas réussi à décrocher ma candidature pour la première émission. Mais l'année d'après, j'étais une nouvelle personne, j'avais un nouveau prénom. Et je me sentais tellement bien dans mon corps. Je me suis dit, maintenant que je suis une femme, enfin j'ai toujours été une femme, mais maintenant que je le revendique, est-ce que le drag est encore fait pour moi ? Et je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais quand même essayer de faire la candidature pour la saison 2, parce que je le fais quand même très bien, et on verra. Puis j'ai réussi. Me voilà étant la première Suissesse qui représente l'art du drag à la télévision française.
Comment est-ce que ça a été pris par la production, mais aussi par vos camarades de Drag Race, le fait que vous soyez donc une femme et une femme transgenre ? Est-ce que ça a eu un impact quelconque ?
Alors, pas du tout. Il faut savoir que dans le monde du drag, il y a la catégorie drag queen, il y a la catégorie drag king, et il y en a une catégorie qu'on dit plutôt drag queer, ou même créature. Et maintenant, en tout cas en 2024, tu peux être une femme cis ou trans et faire du drag queen, comme je fais. Après, moi, j'ai aussi un drag king que je sors de temps en temps, mais c'est hyper ok de faire absolument ce que tu veux. Bon, ça, c'est une compétition de drag queen, en l'occurrence, et ça a posé aucun problème.
Aucune transphobie non plus
Non, vraiment pas. J'ai été tellement bien acceptée. Tout a été très bien pris à la télévision. Après, dans les commentaires et tout ça, oui, bien sûr, il y a toujours des connards qui viennent te dire « Ben non, c'est un homme, ça se voit, ça s'entend. » Puis, en fait, j'ai rien à leur apprendre à ces personnes-là, je pense. Donc, je m'en fous un peu. Et je trouve qu'en fait, justement, Drag Race, on célèbre notre identité par le biais du drag. C'est tout le temps très joyeux. Après, bien entendu, il y a du négatif dans ce que nous, on raconte sur nous-mêmes, sur nos passés. Et donc, qu'on pleure un épisode ou deux, c'est normal. Il y a beaucoup d'émotions, quoi. Mais quand on arrive sur le plateau, puis qu'on se rend compte qu'on est 11 personnalités à entrer en compétition... Ça devient aussi vite fait une famille.
Et à titre personnel, le fait d'être propulsé comme ça aussi sur le devant de la scène internationale, qu'est-ce que ça vous a fait ?
C'est chaud. C'est grave chaud. Ce qui est très étrange, c'est qu'on fait le tournage bien avant que ça sorte. Et donc, tu as un peu ce temps mort où tu retournes un peu à ta vie en sachant que tu as fait un truc qui va être incroyable, mais que personne n'est au courant. Là, c'est un peu un moment bizarre de ta vie parce que tu sais que ça va bientôt péter et que ça va bientôt exploser, mais tu sais pas vraiment quand et tu vis un peu cette routine que tu avais l'habitude de vivre, mais d'une façon complètement différente parce que tu as un regard nouveau sur ton futur.
Et vous n'avez pas le droit d'en parler ?
Bah non, on n'en parle pas, non, absolument pas.
Vous signez des documents
Ah ouais. Outre le fait de pas devoir en parler, c'est quand même vachement plus sympa que tout le monde ait la surprise. Quand ça sort, c'est tellement ouf. Sur Internet, t'as des messages partout, ça arrive par milliers. T'as des gens qui se sont jamais intéressés à toi qui reviennent. T'es genre, ah non, merci. Ton monde, il change complètement. Et je pense que c'est assez important de mettre des bases assez rapides et puis de se dire, attends, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça je vais faire attention, ça je vais pas faire attention. Moi, ce qui me fait hyper peur, par exemple, c'est de prendre la grosse tête. J'ai l'impression que pour l'instant, je me débrouille bien. Moi, je sais que j'ai changé parce qu'en fait, j'ai un futur aussi, que je me vois dans 5 ans continuer à faire du drag, faire quelque chose. il y a les priorités qui changent, t'es payé pour faire ce que t'aimes, c'est aussi dingue ça, t'as beaucoup de bookings, t'as des gens qui t'appellent, qui sont intéressés par ce que tu fais. J'étais trop fier de moi, j'étais genre putain, mais en fait, je vais peut-être m'en sortir via l'art que j'aime.
Mais c'est quoi les côtés obscurs de la célébrité?
Bah, y a beaucoup de gens qui t'utilisent, qui ont envie de participer à cette fame un peu, donc qui essaient de faire des choses avec toi alors qu'ils s'en foutent un peu. Je sais que je suis une personne qui est très introvertie des fois, j'ai envie qu'on me foute la paix, donc je sais que bah, il faut pas trop que je sorte. Les soirées drag, par exemple, tu sais très bien que tu vas te faire reconnaître, même si t'es out of drag, que tu y vas en civil voir des copines, tu sais très bien qu'il y a tout le monde qui va te reconnaître dans la salle.
Et il se passe quoi quand c'est le cas?
Moi, ça me gêne un peu parce que je suis pas venue pour être reconnue. Je suis venue pour voir des gens et donc j'ai l'impression que l'atmosphère de la soirée change parce que j'ai absolument pas demandé à avoir un projecteur sur moi. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu bizarres qui se passent comme ça. Après, moi, je crois que je suis assez bien entourée. Il n'y a pas vraiment de gens malhonnêtes autour de moi. Puis se faire reconnaître dans le métro, franchement, moi, ça ne m'a jamais gêné. Je trouve que c'est plutôt marrant. Il y a beaucoup de gens qui viennent te reconnaître, qui te parlent de trucs et tout. Et franchement, moi, pour l'instant, il n'y a pas de mauvais côté.
Donc, le feedback négatif, voire le harcèlement en ligne ou en personne, ça, c'est quelque chose qui vous touche pas ou qui vous concerne pas?
Bah, le truc, c'est que je l'ai eu depuis tellement longtemps, ce harcèlement en ligne et ce harcèlement dans la vie de tous les jours, que j'ai l'impression que c'est pas parce que maintenant, c'est à cause de mon drag que ça me change. Je m'en fous. Enfin, non, ce serait faux de dire que ça me touche pas. Ça me touche toujours un peu, surtout quand c'est des trucs super précis, genre putain, t'es trop moche, ta perruque est dégueulasse, tu l'as mal mise et tout. Là, je suis là, genre oula. Mais sur mon existence, ça me touche pas parce que je suis très fier de faire ce que je fais et je sais que je le fais bien. Et du coup, que les rageux ragent, quoi. Je reste à ma place, qui reste à la leur.
Comment est-ce qu'on vit, après avoir été sous le feu des projecteurs comme ça, de façon si intense pendant Drag Race, le retour dans l'ombre après le show et puis de façon plus générale aujourd'hui entre Paris et la Suisse?
Ça, je m'en rends pas compte pour l'instant, parce que les projecteurs, ils sont encore très, très, très allumés. Après, est-ce que j'ai peur de complètement redescendre un jour? Ben, oui, mais... Pour l'instant, en fait, je travaille tellement sur ce que je fais. J'ai beaucoup, beaucoup de soirées où je fais des shows, donc des lip-sync, des chorégraphies. Je fais des partenariats avec des autres artistes. Et je voyage beaucoup grâce à mon boulot aussi. Enfin, ça m'apporte tellement de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. Et je compte tellement travailler et jamais m'arrêter que du coup, non, j'ai pas peur que ça va partir d'un coup. Au pire des pires, ça peut s'atténuer quand la saison 3 sort. Quand il y a un nouveau badge de Queen qui arrive, c'est normal que les autres ternissent un petit peu. Mais non, mais j'ai pas trop peur. Je suis même plutôt contente que la famille s'agrandisse.
Il y a un débat aussi sociétal autour des drag queens, le danger qu'elles pourraient représenter en termes d'incitation pour les jeunes à se poser des questions sur le genre. Il y a quand même une forme de backlash qui revient. Quel regard vous portez sur ce moment en fait de la société qu'on vit?
J'ai l'impression que les gens ils sont tellement terrifiés en général de la nouveauté et tout ce qu'ils connaissent pas. C'est comme les parents qui ont un coming out hein, souvent dans leur famille. Et quand tu connais pas au début, ben soit tu ressens de la colère ou je trouve que c'est presque normal en fait que les gens quand ils savent pas ils sont fâchés. Alors qu'en fait t'as juste à te renseigner un tout petit peu pour comprendre qu'on fait tellement de bien. Par exemple, moi, je fais beaucoup de lectures de textes pour les enfants à Genève, au MEG, au musée d'ethnographie, avec toute une clique de drag de Genève, dont Nyx, qui a remis ça à jour au MEG. Et à chaque fois, on passe un moment, mais incroyable. Là, on est en train d'écrire des textes en plus qui viennent de nous. Ça reste quelque chose de très artistique. Et les enfants, ils sont trop bien de nous voir. Ils se posent pas vraiment de questions. C'est plutôt les parents qui se posent des questions, hein. Les enfants, ils sont super contents en fait de passer un moment avec nous pour juste discuter. Tout est tellement fluide avec les enfants, tout est tellement cool. Et du coup, c'est du fun. Et je trouve que le drag, en fait, on oublie souvent que c'est du fun avant tout. Moi, ça me le rappelle chaque fois que je vois les gosses, quoi. Et donc, je comprends pas. Mais je vais rester là et puis je vais me battre, quoi.
qu'est-ce que vous diriez à l'enfant que vous étiez, qui se faisait maltraiter par ses congénères à l'âge de 8-9 ans?
Je dirais que la vie va être dure, pleine d'échecs, mais que ça va vraiment valoir la peine parce qu'à la fin, tu vas te rendre compte que t'es une personne tellement curieuse, intéressante et intelligente que t'es une belle personne. Donc continue, tu seras trop fier de toi un jour.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la 6e saison de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!